VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 18 avril 2016. Au sommaire ce soir...
République centrafricaine, un soldat marocain de la MINUSCA et un civil ont été tués hier dans la ville de Rafah.
Dans le nord du Mali, à Kidal, au moins un civil a été tué lors de manifestations contre les forces françaises et onusiennes.
Ce qui est sûr, des coups de feu ont été entendus, mais personne ne peut dire celui qui a tiré et d'où venaient ces tirs.
Massacre en Éthiopie, un raid mené par une tribu sud-soudanaise a fait au moins 208 morts, 102 enfants ont été kidnappés.
Au Brésil, jubilation dans l'opposition, colère dans le camp gouvernemental. La Chambre basse a voté en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La bataille va maintenant se jouer au Sénat.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Violence dans l'est de la République centrafricaine. Un soldat marocain de la MINUSCA et un civil ont été tués hier dans la ville de Rafah. Le drame est survenu à la suite d'une attaque de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, dans cette localité. Freeman Sipila.
Il est 15 heures passées lorsque les habitants de Rafah, ville située à 150 km à l'est de Bangassou, ont été surpris par des tirs à l'arme automatique des combattants LRA. Les assaillants ont réussi à piller des greniers et bien d'autres objets de valeur des habitants. Les populations, déjà habituées au mode opératoire de la rébellion ougandaise, vont très vite s'organiser et passer à la contre-offensive. Bilan provisoire, un combattant LRA grièvement blessé et trois autres capturés. Quelques minutes plus tard, une autre tension s'éclate entre les soldats marocains de la MINUSCA en faction dans la région et des habitants armés voulant à tout prix récupérer l'assaillant blessé, admis dans un hôpital de la ville. Des échanges de tirs opposent les deux parties. Bilan, un casque bleu et un civil tué selon une autorité municipale contactée par VOA Afrique. Cette nouvelle attaque de l'armée de résistance du Seigneur replonge Rafah dans la terreur de la nébuleuse ougandaise dont deux membres se sont volontairement rendus la semaine dernière aux autorités centrafricaines. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le président centrafricain est au Vatican, sa première visite à l'étranger. Faustin Archange Touadéra s'est entretenu avec le pape dans la bibliothèque du palais pontifical. Ils se sont félicités du climat constructif et du renouveau des institutions à RCA.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, deux personnes au moins ont été tuées lorsque les forces de l'ordre ont ouvert le feu dimanche sur une foule en colère, exaspérée par la violence dans la région. L'AFP explique que le point de départ du drame est la mort de deux personnes victimes d'un vol à main armée.
Manifestation contre les forces françaises et onusiennes à Kidal, dans le nord du Mali. Au moins un civil a été tué. La correspondance de Boubacar Touré.
Ce matin, dans la ville de Kidal, une partie de la population est sortie pour manifester contre les forces étrangères basées à Kidal. Les manifestants étaient surtout des jeunes et des femmes. Ils revendiquaient la libération de certaines de leurs interpellés par la force Barkhane et le départ sans condition de la mission onusienne. Le bilan de la manifestation varie selon les sources. D'aucuns parlent de trois enfants tués, d'autres avancent que c'est deux civils qui ont perdu la vie. Ce qui est sûr, des coups de feu ont été entendus, mais personne ne peut dire celui qui a tiré et d'où venaient ces tirs. Selon toujours nos informations, le camp de la MINUSMA a été pillé et les soldats de la paix ont abandonné leur position. Il faut rappeler que depuis quelques jours, déjà, la force Barkhane a intensifié ses opérations de traque de djihadistes dans la région de Kidal, où plusieurs personnes ont été interpellées et interrogées par les soldats français. En tout cas, la situation dans les régions du Nord devient de plus en plus préoccupante, surtout dans la région de Kidal, où jusque-là, aucune autorité administrative malienne n'est encore présente. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au moins 345 cas de torture et mauvais traitements ont été enregistrés au Burundi cette année. Tels sont les chiffres de l'ONU qui déplore le recours généralisé à ces pratiques par les forces de sécurité gouvernementales agissant en totale impunité.
Le gouvernement éthiopien promet de chasser les responsables du raid mené vendredi par une tribu sud-soudanaise dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Ces atrocités ont fait au moins 208 morts et 102 enfants ont été kidnappés. Un bilan confirmé par le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Jacques Aristide.
Ce sont des hommes armés de la tribu sud-soudanaise Morlaix qui ont été identifiés comme les auteurs de ce qui est désormais appelé le massacre de Gambella. Du nom de cette ville à 50 km de la frontière, elle abrite des Éthiopiens d'ethnie Nuer, une des deux principales ethnies au Soudan du Sud, avec les Dinka. Le chef du gouvernement éthiopien a déclaré qu'une contre-offensive était en cours, en même temps que des mesures pour tenter de libérer les enfants enlevés. Harley Mariam Dessaleng n'a toutefois pas précisé si l'armée éthiopienne avait passé la frontière, mais a assuré avoir consulté le gouvernement de Juba pour mener des opérations communes. Cette attaque a provoqué une vague d'indignation dans les médias éthiopiens et renforce les craintes d'un débordement sur le territoire éthiopien de la guerre civile déclenchée en décembre 2013. Au Soudan du Sud.
L'arrivée de Riek Machar à Djouba est repoussée à demain mardi. Son porte-parole explique ce report par des problèmes logistiques. On fait le point avec Idriss Fall.
Le retour de Riek Machar à Djouba était initialement prévu ce lundi. Son arrivée a été reportée d'une journée à cause de problèmes logistiques, selon un de ses porte-parole, William Ezekiel. Le chef rebelle doit venir de sa base de Pagak, dans l'est du pays. 1370 soldats et policiers l'ont précédé à Djouba pour garantir sa sécurité. Riek Machar devra prêter serment comme vice-président, un poste qu'il avait occupé jusqu'à son limogeage controversé en juillet 2013. Par le président Salva Kiir. Une dispute qui a plongé le pays dans une guerre civile meurtrière depuis décembre 2013. L'accord de paix signé le 26 août 2015 prévoit un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir. Mais Festus Mogae, ancien président botswanais, a averti que la formation d'un nouveau gouvernement ne sera pas une tâche facile. Mais ce retour annoncé de Riek Machar suscite un fragile espoir de règlement d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.
Nouvelle attaque d'Al-Shabaab à Mogadiscio, la capitale somalienne. Les islamistes ont ouvert le feu sur des passants. 3 civils ont été tués.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour parler de paix sur la Syrie, l'opposition a annoncé qu'elle suspend sa participation formelle aux négociations de Genève. La nouvelle a été confirmée aujourd'hui par le médiateur de l'ONU. Par ailleurs, le président François Hollande a déclaré au Caire qu'il fallait tout faire pour maintenir la trêve entre régime et rebelles en Syrie.
L'ONG SOS Méditerranée a annoncé aujourd'hui la découverte d'au moins 8 morts sur un canot à moitié dégonflé dimanche au large de la Libye, les survivants évoquant une vingtaine de disparus supplémentaires. Les détails avec Nanit Talani.
Parti en début de matinée, le canot prenait l'eau quand le navire de secours Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et son partenaire Médecins du Monde, est arrivé à sa hauteur. Selon un communiqué de l'ONG, les manœuvres de transbordement ont été très délicates. Pris de panique, des réfugiés se sont jetés à l'eau et 2 hommes se sont noyés, emportés par des courants, tandis qu'un autre a pu être sauvé in extremis. 6 cadavres ont été découverts au fond de l'embarcation, mais les 108 survivants ont affirmé qu'il y avait plus de 135 personnes à bord au départ, ce qui laisse craindre qu'une vingtaine de personnes aient disparu dans l'eau. Les rescapés sont originaires de divers pays d'Afrique, dont la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Soudan, l'Éthiopie ou encore l'Érythrée. Selon un bilan au 14 avril du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 24 443 migrants sont arrivés par mer en Italie depuis le début de l'année et plus de 350 sont morts ou disparus en mer.
Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff est proche de la destitution après le vote historique dimanche des députés à une écrasante majorité. Elle devrait s'exprimer aujourd'hui. Maëlys Hegel.
367 voix pour le oui à l'impeachment de Dilma Rousseff. C'est 25 de plus que les 342 requises pour la destitution d'un président. Le mandat de cette impopulaire présidente de gauche ne tient plus qu'à un fil. Il lui faut désormais rechercher des soutiens au Sénat pour ne pas se voir destituée de son poste. Si tel est le cas, le vice-président Michel Temer assurera ses fonctions jusqu'aux élections de 2018. À 75 ans, cet homme centriste est presque tout autant impopulaire que Madame Rousseff. Son nom étant cité à plusieurs reprises dans le scandale de corruption Petrobras. La décision finale revient aux sénateurs qui voteront en mai à la majorité simple pour mettre en accusation la présidente pour crime de responsabilité. Celle-ci a nié les accusations dont elle est l'objet, soit un maquillage des comptes publics en 2014 et 2015 pour masquer l'ampleur de la crise économique. Elle a annoncé dimanche qu'elle lutterait jusqu'au bout. Mais pour l'analyste politique André César, il est difficile que le Sénat aille à l'encontre de la décision des députés. Le quotidien O Estado a publié une projection des votes qui n'est pas encourageante. 45 sénateurs sont supposés voter pour l'impeachment et seulement 21 contre.
Présidentielle américaine, les candidats ont fait campagne aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, à la veille des élections primaires cruciales de New York. Donald Trump et Hillary Clinton voulant confronter leur position de favori et Bernie Sanders espérant sauver son rêve. Habituellement, les primaires de New York arrivent trop tard dans la saison pour susciter l'intérêt, mais pas cette année, le processus n'ayant toujours pas permis de déterminer qui sera le candidat de chaque parti à l'élection présidentielle américaine de novembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et nous passons tout de suite à la page économique avec Eric Manirakiza.
Le prix de la farine de maïs, élément de base du régime alimentaire à Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo, s'envole. Samedi, le sac de 25 kg se vendait autour de 20 000 francs congolais, soit 21,5 $ américains, alors qu'en janvier, il ne coûtait que 10 $. Plus de 2 millions d'habitants sont touchés. C'est la conséquence de la sécheresse qui sévit en Afrique australe. La ville de Lubumbashi, la deuxième du pays, importe la plupart des produits de première nécessité de Zambie. Les autorités de Lusaka ont interdit le 5 avril l'exportation de maïs et des produits dérivés pour pallier aux pénuries de nourriture provoquées par la sécheresse. Le Rwanda se prépare à accueillir le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. Il est placé sous le thème « Connecter les ressources africaines à travers la transformation numérique ». Kigali abritera plus de 1 500 délégués entre le 11 et le 13 mai prochain. Le pays de Paul Kagame enregistre un taux de croissance du produit intérieur brut qui oscille autour de 7,6% des plus rapides en Afrique subsaharienne. En Éthiopie, la croissance démographique pose un défi majeur en termes d'hygiène et d'accès à l'eau. Les projections montrent que d'ici 2050, 70 millions d'Éthiopiens vivront en ville sur une population globale qui avoisinera les 180 millions d'habitants contre 100 millions actuellement. Selon l'UNICEF, 180 000 enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne meurent chaque année de maladies diarrhéiques dues à un mauvais accès à l'eau et à des conditions d'hygiène insuffisantes.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Ligue africaine des champions, 8e de finale retour.
Le Stade malien en déplacement chez le Zesco United de Zambie après la déroute à l'aller à Bamako, 3 buts à 1. Même chose pour la SEC Mimosa battue 2-0 à Abidjan par le Ali Tripoli. Le Zamalek d'Égypte, fort de sa victoire 2-0, se déplace en Algérie chez Béjaïa. Autre match, Sétif contre Al-Merrer du Soudan.
Mercredi.
Et à suivre mercredi, le tout-puissant Mazembe, le club congolais tenant du titre, qui avait été battu 2-0 à Casablanca par le WAC. À la Ligue contre les Young Africans, le club tanzanien, les Mamelodi Sundowns accueillent en Afrique du Sud l'AS Vita Club, qui l'avait emporté 1-0 à Kinshasa. Et puis Enimba du Nigeria l'avait emporté 3-0 à l'aller et se déplace chez l'Entente sportive du Sahel, le club tunisien.
Autre compétition demain, la Coupe de la Confédération.
Oui, dès demain, le Stade Gabésien, le club tunisien contre le Zanaco de Zambie, Zagrada Esperanza, le club angolais face au club congolais du V-Club Mokanda. Et puis Tunis accueille Azam de Tanzanie. Enfin, le club égyptien de Misr Makassa contre le CS Constantine.
Marathon de Boston, l'Afrique à l'honneur.
C'est l'Éthiopien Lemi Beranou qui a remporté la course, l'une des 6 épreuves du circuit mondial, avec un chrono de 2h12 minutes et 45 secondes. Beranou a devancé le tenant du titre et double vainqueur de l'épreuve, son compatriote Lelissa Desisa. Chez les dames, l'épreuve a été remportée par l'Éthiopienne Atsede Baissa en 2h29 minutes et 19 secondes.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Pour leur premier match des playoffs contre Houston, les Warriors de Golden State sont restés fidèles à leur stratégie qui leur permet d'écœurer la concurrence depuis presque 2 saisons. Ils ont marqué 10 paniers à 3 points, dont 5 pour le seul Stephen Curry. pour écraser les Rockets 104 à 78.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
47 militaires ont été arrêtés le 9 avril, dernier jour du vote des soldats au Tchad. Selon leurs proches, ils ont été torturés pour avoir voté pour l'opposition. Les familles demandent l'intervention de la communauté internationale pour que ces soldats recouvrent leur liberté. André Kodmajingar.
Si les civils ont voté dans le calme et en leur âme et conscience, certains militaires ont payé de leur vie pour avoir exprimé leurs droits civiques. Leur conscience a été violée car ils ont été contraints par leur chef hiérarchique à voter uniquement pour le candidat Déby. Ceux qui n'ont pas obtempéré à ses ordres sont arrêtés et mis en prison secrète. Gali Katangote, candidat du parti UFDR, Union des Forces Démocratiques, Parti Républicain, donne les statistiques.
Ça fait 47 militaires arrêtés à la suite des élections du 10 avril. Nous avons déploré 4 morts dont les corps ont été retrouvés dans le fleuve. On en a identifié 3, un policier et 2 militaires. Et le quatrième n'a pas été identifié.
Les parents de ces victimes demandent à l'opposition et à la communauté internationale de faire la lumière sur ces arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires.
Je suis la femme de Bias Nangarti de Duclos. C'était le vendredi, il était sorti de la maison jusqu'à le dimanche. Il n'est pas reparti à la maison. Je suis allé au niveau de son boulot pour demander. On me dit qu'il a voté un opposant. Et on lui a arrêté. Et juste aujourd'hui, je suis là comme ça, sans voir sa trace. Alors aussi, les opposants là pour m'aider à voir la trace de mon mari.
Effectivement, le petit frère a joué son rôle en tant que citoyen tchadien pour aller voter. Et depuis ce jour, il n'est plus rentré. Je suis au regret. J'interpelle l'opinion internationale tout comme nationale de voir l'affaire des militaires qui sont arrêtés.
Mon grand frère était parti à la présence pour le vote. Quand il était parti, le lundi matin, il n'était pas rentré. Jusqu'à 12 heures, sa femme est obligée de l'appeler au téléphone pour savoir sa position. Là, c'est un inconnu qui a décroché le téléphone. Il a menacé la femme de ne plus appeler. Depuis le jour, on ne l'a pas revu.
Et pourtant, deux jours après ce scrutin, Diankunda Traoré, ancien président de la transition du Mali et chef de la mission de l'observation de l'Union africaine, déclare ceci.
Les bureaux où votaient les militaires que nous avons visités, nous n'avons rien remarqué de particulier. Et je vous assure qu'aucun militaire n'est intervenu pour influencer le cours du scrutin.
Gali Katangote rassure les parents des victimes que l'opposition va se mettre du côté des organisations des droits de l'homme pour situer la responsabilité et exige l'annulation du vote des militaires.
Nous allons nous mettre en contact avec les organisations des droits de l'homme et tout pour essayer de savoir où c'est que ces militaires sont emprisonnés. Après tout, c'est d'abord des citoyens. Et donc, toute élection où la conscience de l'électeur est violée n'est pas légitime. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé l'annulation.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
L'opposition nigérienne, réunie au sein de la coalition pour l'alternance, COPA 2016, a décidé de retourner au Parlement et de reprendre sa place à la commission électorale. L'opposition justifie son revirement par le souci, dit-elle, de recadrer ses actions pour porter la lutte au sein du Parlement afin d'éviter qu'il soit une simple caisse de résonance. La COPA a également décidé de participer aux élections locales prévues le 9 mai et exige la libération de tous ses militants détenus depuis fin 2015, dont plusieurs ont été élus députés. Pour une analyse, Eric Manirakis a joint à Niamey le professeur Issoufou Yaya qui parle d'une motivation illogique.
Logique pour logique, non. Moi, j'ai l'image d'une opposition aujourd'hui déboussolée, une opposition qui s'est décrédibilisée, qui a totalement perdu la face et qui montre un peu la légèreté de ses positions, d'une part, et d'autre part, qui montre qu'elle est en train d'aller en ordre dispersé, qu'elle n'est pas cohérente, qu'elle n'a pas de chef et que finalement, je pense que le ventre l'a plus emporté que la raison. C'est aussi pour moi une opposition qui n'a aucune stratégie et qui aurait dû accepter d'aller à un gouvernement d'union nationale que lui avait proposé le président de la République. Je pense que si elle avait accepté, elle aurait d'ailleurs sauvé la face. Mais aujourd'hui, je pense que plus personne ne fait véritablement confiance à cette opposition pour les intérêts, en tout cas, du Niger qu'elle prétend défendre ou préserver.
Oui, mais la politique de la chaise vide n'a jamais payé.
Certes, elle n'a jamais payé, mais dire une chose et le lendemain dire le contraire, je pense que ça ne fait pas de cette opposition une opposition sérieuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Donc c'est une déception au sein des citoyens du Niger.
Quand on prend une décision, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et cette opposition me semble ne plus avoir de courage. Elle me semble totalement peut-être appauvrie et inapte maintenant à mener quelques combats que ce soit au nom de l'intérêt du Niger et des Nigériens.
Peut-on dire qu'il s'agit d'une seconde victoire du président Issoufou?
L'opposition avait fait un combat d'arrière-garde, en tout cas, beaucoup avaient fait beaucoup d'effets d'annonce, et que maintenant, elle s'est rendue pieds et mains liés. C'est le chaos vraiment qui est en train de se réaliser avec cette décision de l'opposition.
Est-ce que l'opposition a-t-elle encore des chances pour redorer son blason et regagner la confiance?
Alors, je ne sais pas comment regagner la confiance, puisque durant d'ailleurs les cinq premières années du président actuel, le président Mahamadou Issoufou, l'opposition n'a brillé que par son inaction. Donc, c'est une capitulation totale, grotesque et qui va lui peser pour longtemps encore.
Le professeur Yahya Issoufou joint Hadj à Niamey.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Kidal, dans l'extrême nord du Mali, a été le théâtre d'une manifestation. Des jeunes et des femmes Touareg dénoncent des arrestations effectuées par la force française Barkhane. Ils ont saccagé des installations sécuritaires de l'aéroport de Kidal. Trois Touareg avaient été arrêtés par l'opération Barkhane suite à la mort le 12 avril de trois soldats français dont le véhicule avait sauté sur une mine près de Tessalit. Idriss Fall a joint Amberi Agrissa, un leader de la coordination des mouvements de l'Azawad à Kidal.
À Kidal, il y a eu une marche improvisée par des femmes à la suite d'opérations opérées par Barkhane pour des vérifications. La marche, au lieu de se diriger sur Barkhane, s'est dirigée sur l'aéroport de Kidal et l'AMINUSMA, les éléments de l'AMINUSMA, les postes de l'AMINUSMA qui étaient autour de l'aéroport. Et elle a dégénéré, malheureusement. Il y a eu usage de gaz lacrymogène. Ensuite, il y a eu des tirs à balles réelles. Pour le moment, le bilan dont nous disposons est de 2 morts et de 6 blessés.
Est-ce qu'on sait pourquoi la manifestation a dégénéré?
Ça, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a dégénéré. Il est possible que ce soit dû à un côté ou à un autre. Les manifestants se sont apparemment attaqués à l'aéroport et directement au dispositif des alentours, le grillage, le matériel. Et peut-être que les gaz lacrymogènes n'ont pas pu contenir la marche. Dans ce genre de situation, la tension monte facilement d'un côté ou de l'autre, ou bien même des deux côtés.
Mais pourquoi l'AMINUSMA alors que c'est Barkhane qui a procédé à des arrestations?
Barkhane a arrêté des arrestations pour des vérifications, selon ce qu'on nous a dit, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On nous a dit pour des vérifications. Mais moi, je ne sais pas parce que ce ne sont pas des opérations dont je maîtrise toutes les informations.
Est-ce que cette manifestation aura une incidence sur le processus de paix qui est déjà enclenché avec les autorités de Bamako?
Bon, ça, je ne suis pas un saint. Pour le savoir, je sais seulement que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ça peut embuer l'atmosphère, mais je ne pense pas quand même que ça puisse, ça freine, ça bloque les processus. Mais ce n'est pas bon pour les processus non plus. Il est bon que l'on situe les responsabilités en toute équité, en toute justice et en toute vérité.
Est-ce que le calme est revenu à Kidal au moment où nous parlons?
Oui, au moment où je vous parle, en tout cas, le Kidal est calme.
Amberi Agrissa, un leader de la coordination des mouvements de l'Azawad à Kidal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Togo a procédé la semaine dernière à l'inauguration d'un centre entrepreneurial pour les femmes d'affaires baptisé Innovop. Innovop se veut un centre d'incubation pour accompagner les startups, pour booster l'entrepreneuriat féminin au Togo, nous dit de Lomé, notre correspondante Kayi Lawson.
Le monde entrepreneurial togolais est fortement masculinisé. Moins d'un tiers des entrepreneurs sont des femmes. Pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le pays, la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo a fait créer le Centre entrepreneuriat des femmes d'affaires dénommé Innovop. Sidonie Etna, directrice générale de Innovop.
Innovop a pour mission la promotion et la valorisation de l'entrepreneuriat des femmes, notamment en les appuyant de façon soutenue dans les secteurs à fort potentiel de création de richesses et de génération d'emplois durables. Nous sommes conscients que les femmes ont des contraintes qui leur sont spécifiques, il y a des pesanteurs qui ralentissent un peu leur épanouissement entrepreneurial. Donc nous nous proposons de leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins.
Implantée dans la zone commerciale de la capitale togolaise, non loin du grand marché de Lomé, le centre Innovop, 24 heures après son inauguration, attire des femmes entrepreneurs. Dela Demsoda Tonou, responsable d'une start-up spécialisée dans l'événementiel, vient de faire un tour à Innovop.
Je trouve que c'est une bonne initiative dans la mesure où Innovop peut être la garantie pour des financements. Innovop peut nous accompagner dans la formation, la mise à niveau. Donc, dans cette optique-là, je trouve que c'est bien si... Si tout ce qu'on nous avait dit sur place est vrai.
La directrice générale nous explique les services qu'offre Innovop. Nous retrouvons Sidonie Etna.
Nous sommes une plateforme multiservice. Nous abritons un incubateur de start-up, c'est-à-dire qu'on leur offre donc un hébergement avec bureaux tout équipés et surtout un accompagnement stratégique et technique. Nous avons aussi donc comme autre service de la formation afin qu'elles soient en mesure de porter de grandes entreprises, réseautage aussi. On ne réussit pas seul, on a besoin d'être connecté.
Sur la question du financement des femmes entrepreneurs, le programme des Nations Unies pour le développement promet son appui. Abdoulaye Mardieye, directeur Afrique du PNUD.
Seul l'investissement dans le genre peut nous sortir des ornières du sous-développement. Nous, nous allons accompagner sur le plan financier, surtout au niveau des études de faisabilité. C'est très important parce que chaque fois qu'on voit les banques, elles nous disent que les projets qu'on soumet ne sont pas bancables. Donc nous, nous allons aider les femmes de Innovap à assurer la faisabilité de leur programme et puis nous allons faire un peu un rapprochement entre la banque et l'entrepreneur.
Dans son plan annuel, Innovap prévoit former 300 femmes, réaliser 50 projets incubés et contribuer à la création de 100 emplois sur les projets incubés. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.